Bienvenue dans Dernier Round, podcast consacré aux arts martiaux et sports de combat, produit par Agane. Dans cet épisode, je reçois Luc Jabbar et nous allons parler ensemble Bare Knuckle Boxing. A tout de suite.
Luc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te reçois aujourd'hui en tant que président de la fédération BKB France. Luc, qu'est-ce que le bare knuckle boxing?
Alors, le bare knuckle boxing, à la base, c'est de la boxe main nue qui existe depuis très très longtemps maintenant. Et l'idée de la création de la fédération, c'est plus un regard sur l'international et pour pouvoir combattre en international. Sur cette discipline-là qui n'existe pas du tout en France. En soi, nous, dans l'équipe de BKB France, à la base, on vient tous de Scola Martis, donc de l'école de Philippe Choisy. C'est une discipline pugilistique qui vraiment, dans l'idée, cherche à revenir un petit peu au sport ancestral de la boxe, sans protection, sans gants et avec beaucoup moins de règles.
Alors, quand on dit revenir au sport ancestral de la boxe, quelle est la différence, en quelques mots, entre la boxe anglaise qu'on connaît tous et qui est très médiatisée et la pratique du bare knuckle boxing?
Alors, la différence concrète entre la boxe anglaise et le bare knuckle, déjà, c'est les protections. Il n'y a pas de gants, il n'y a pas de protection dans le bare knuckle. Et les rounds sont beaucoup moins longs. Normalement, c'est généralement 3 rounds. Au lieu de 12.
Oui, ça fait une différence.
Ça fait une grande différence. Et ensuite, c'est certaines techniques comme le clinch qui sont interdites en bare knuckle et par exemple la saisie des cheveux qui est autorisée en bare knuckle et qui est interdite en boxe anglaise.
D'accord. Donc on a une technicité qui est quand même un peu différente du fait de ne pas avoir de gants et de pouvoir faire d'autres choses ou...
En réalité, en fait, on est vraiment sur deux sports complètement différents. Sur les préparations et sur les techniques, il y a quand même beaucoup de différences, que ce soit au niveau de la garde, que ce soit au niveau des impacts, au niveau des distances. On va travailler vraiment différemment en bare knuckle, justement dû au fait qu'on n'ait plus les boucliers, donc les gants de boxe pour travailler.
J'ai cru lire qu'il y avait une autre différence, c'était au niveau du temps qui était compté en cas de KO. Il m'a semblé que, alors, voilà, en boxe anglaise, tu me corriges si je me trompe, on est sur 10 secondes pour être compté KO. En bare knuckle, on est sur 20 secondes, c'est ça?
Alors non, pas forcément. En fait, ça D'accord. dépend des fédérations. Certaines fédérations anglaises vont utiliser 20 secondes, d'autres vont utiliser 10. Après, il y a certaines fédérations qui changent les règles par rapport justement au fait que la discipline en elle-même n'est pas vraiment une discipline, qu'elle est plus à la base une animation qu'il y avait à l'époque où les gens se réunissaient et se battaient entre eux avec des paris et tout ça. Et donc en fait, chaque fédération a évolué avec sa façon d'approcher le bare knuckle. Et du coup, comme c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est reconnu aux USA ou en Angleterre, on a des règles qui diffèrent. Par exemple, certaines fédérations n'acceptent pas qu'on puisse se tenir les cheveux.
D'accord.
Voilà. Eh bien, le comptage, c'est pareil. Il y en a certains qui vont compter sur 20 secondes et d'autres qui vont compter sur 10 secondes. Et il y a certaines fédérations qui ne vont pas du tout compter, en fait, qui vont attendre que le combattant se remette. Et du coup, l'arbitre va demander au combattant à savoir est-ce qu'il veut continuer de combattre ou pas.
Alors moi j'ai souvenir de... Bon, notamment dans des films historiques de combats comme ça à main nue. Je vais bêtement citer les dernières versions de Sherlock Holmes, ce genre de, et puis beaucoup d'autres films qui mettent en scène effectivement des deux personnes qui s'affrontent dans une grange ou dans une rue entourée par un cercle de parieurs et qui se combattent effectivement avec les poings nus. Est-ce que c'est ça l'ancêtre de la boxe? Est-ce que c'est ça le bare knuckle?
Alors, c'est pas l'ancêtre de la boxe, parce que l'ancêtre réellement de la boxe, c'est le pugilat, qui vient de la Grèce antique, du coup, avec les Jeux Olympiques, et c'était une des trois disciplines de base des Jeux Olympiques. C'était donc le pugilat, qui est aujourd'hui le bare knuckle, mais c'était encore différent, il y avait d'autres choses encore complètement différentes. Et ce qu'on voit dans les films réellement peut s'en approcher, mais c'est toujours un petit peu une caricature de ce que c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est deux mecs qui rentrent dans un petit ring et qui se mettent sur la tête avec une haine, avec pas forcément de technique. Et ça a pu être le cas il y a 10 ans en arrière, avant que le BK explose à l'étranger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé, on va dire. Il y a vraiment des vrais combattants. Les bagarreurs de rue vont plus forcément aller combattre dans des fédérations. Alors, il y a toujours des gens qui organisent à l'extérieur, sans fédération et tout ça, de ce genre de combat, avec des ballots de paille et tout ça. Mais on va vers plus une généralisation du BKB, avec des vrais champions, avec des vraies compétitions, avec des vrais combattants. Et on a vraiment des titres en jeu, et il y a vraiment quelque chose de plus, on va dire, communautaire, c'est-à-dire qu'on va créer vraiment une communauté de combattants spécialisés dans le BK.
Donc on est passé en quoi, 10-20 ans de combats illégaux dans les arrières-salles de bars et des choses comme ça, à quelque chose de plus structuré et qui a lieu sur des rings avec des galas officiels, une organisation reconnue par l'administration, parce que j'imagine qu'il faut quand même que à un moment donné quelqu'un donne son accord pour que ce genre de combat ait lieu.
Nous, on est vraiment là aujourd'hui rentré sur ce qui est le combat en Angleterre en BK. Aux USA, c'est réglementé vraiment, et c'est autorisé réellement avec une vraie fédération. C'est diffusé sur des chaînes et tout ça, télé et tout ça. Il y a des contrats. En Angleterre, c'est aussi autorisé, mais c'est pas forcément, c'est admis. C'est-à-dire que ça fait partie tellement de l'essence du peuple anglais que l'administration ne regarde pas trop sur comment ça se déroule.
On est encore sur une zone floue, alors.
Voilà.
La légalisation n'a pas été posée, mais où on viendra pas les embêter. Voilà. Quand ils organisent un gala.
Il y a rien qui stipule qu'ils ont pas le droit. Il y a rien qui dit qu'ils ont le droit. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant monté en fédération. Le Barfix Boxing Association est quelque chose d'un gros gala. Nous, quand nous on y allait, il y avait 2000 personnes qui regardaient les combats. On avait des mecs qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, qui venaient d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. En fait, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de combattants extérieurs et des combattants pros. On avait des combats amateurs, mais il y avait aussi des combattants pros, et beaucoup plus de combattants pros que de combats amateurs.
Qu'est-ce que c'est comme profil de combattant un peu qu'on rencontre ? Parce que tu dis que c'est des professionnels, mais le bare-knuckle n'étant pas encore si structuré que ça, ils sont pas professionnels en bare-knuckle, ils sont professionnels dans d'autres disciplines.
D'accord. Alors généralement, de ce que moi j'ai pu voir de mon expérience, c'est beaucoup de personnes du MMA,
d'accord,
qui vont vraiment aller se tester dans une autre façon de combattre, et qui vont justement briser leur code de MMA où tout est autorisé. Et plus partir sur quelque chose où il faut plus un charisme, une volonté réellement d'aller au combat là, parce que voilà, le combat reste réellement dur, reste réellement brutal, et c'est pas du tout la même approche. Le stress n'est pas le même, et l'approche du combat n'est pas le même.
Moi, le bare knuckle, je dirais pas que j'en ai jamais entendu parler, mais je me rappelle quand j'ai commencé les arts martiaux, les collègues avec qui je pratiquais étaient fascinés par des films genre Fight Club, Snatch, et on avait ce côté-là, effectivement, aller se tester, aller se mettre à l'épreuve d'un combat plus proche du réel que le combat sportif.
Il y a dans ces films-là, il y a toujours un petit peu, moi je trouve, cette caricature du combattant bare knuckle qui vient de la rue et qui se bagarre dans les bars et puis finalement devient un grand champion. Là, pour monter sur un ring de bare knuckle aujourd'hui, il faut quand même relativement une bonne préparation et avoir quand même une bonne base technique de boxe pour pouvoir justement tenir les rounds. Et on le voit réellement sur des combats où certaines personnes arrivent et font 40 secondes de combat parce que ils ont pas la technique, ils ont pas l'application du bare knuckle et ont peut-être que fait quelques combats en boxe amateur, et arriver contre une personne qui ne se combat que à main nue, qui a l'habitude de faire que ça, c'est réellement compliqué, et les combats sont quand même assez douloureux pour eux, ceux qui sont pas préparés.
On est sur quelque chose qui a l'air effectivement assez violent de l'extérieur. Le MMA qui a pourtant beaucoup de succès mondial, qui est très médiatisé aujourd'hui et très apprécié d'un grand nombre de publics, a eu beaucoup de mal à entrer en France d'un point de vue organisation de combat légal, puisque je sais qu'il y a des combattants français qui vont à l'étranger. Par contre, effectivement, organiser, structurer une fédération de MMA ou l'intégrer des fédérations existantes était jusqu'à présent pas possible. C'est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il en est de cette version
que tu présentes comme étant encore plus, je dirais pas violent, peut-être brutal. Plus brutal.
C'est considéré comme un des sports les plus brutaux au monde. Hein.
D'accord.
Je pense pas qu'un jour, ou en tout cas pas dans les années à venir, le BKB viendra en France. Je pense pas qu'on puisse un jour organiser un combat de BK en France avec la législation, avec les difficultés ne serait-ce que rencontre le MMA alors qu'il y a des protections, alors qu'il y a vraiment des règles. Le BK, il y a plus de protections, il y a certaines choses qu'on peut faire, qu'on peut se permettre, qui sont dans la législation française interdites en soi. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'avenir du BK en France, il faut même pas en parler, c'est vraiment tout ce qui va se passer justement à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, où vraiment... la passion du BK est beaucoup plus poussée que la passion du MMA. Même si le MMA reste une discipline qui est vraiment appréciée un petit peu partout, quand on va sur Manchester, sur Londres ou même quand on va au Texas, les gens adorent et apprécient ce genre d'événement de BKB parce que l'ambiance est complètement différente. On est plus sur quelque chose de populaire, quelque chose qui fait partie de l'essence du peuple, du brutal, mais aussi du courage et de l'honneur de venir et de monter. Sur les confrontations ou les affrontements avant combat, il n'y a aucune animosité entre les combattants. Et à la fin du combat, il n'y a aucune animosité envers les combattants. En fait, tous les combattants s'apprécient. Dans les vestiaires, il n'y a qu'un seul vestiaire. Tout le monde se parle. Il n'y a pas de challenge en soi de détruire l'autre. C'est déjà une fierté de pouvoir monter. Et donc, d'accord, un honneur de pouvoir affronter quelqu'un qui a le courage de monter sur ce ring-là.
Le match va être suffisamment difficile comme ça. Voilà. On va pas en plus se mettre des ondes négatives en se provoquant l'un l'autre.
C'est ça.
On respecte autant l'adversaire de monter que soi-même.
Que la personne gagne ou perde, en fait, elle sera applaudie par le public, juste par le fait de monter sur le ring, qu'elle soit connue ou pas connue, qu'elle soit un grand combattant ou pas combattant. Rien que le fait de passer les cordes et de venir affronter quelqu'un dans un combat de barnacle, il y a vraiment cette ambiance, on le ressent dans les galas, de respect de la personne. Nous, on avait eu quand on est parti à Bolton avec Manu, avec
oui, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les combattants français qui souhaitent s'essayer au BKB doivent aller à l'étranger.
Oui.
Et donc, toi, tu fais partie des gens qui ont accompagné un combattant lors l'un de ces galas.
Voilà. Alors nous, on a eu cette cette opportunité-là, on va dire, grâce à Sylvain Poquet, qui lui est officiellement, enfin, il est le photographe officiel du bar Fitzboxing.
D'accord.
À Bolton, et du coup, qui avait déjà accompagné un combattant il y a 2 ans avant que nous on y aille, et on s'était rencontrés pendant un stage de Pugila où il était venu shooter le stage. Et on en avait discuté. Manu, le youtubeur Rican, était super intéressé par la discipline du pugilat et voulait aller pousser un petit peu l'expérience beaucoup plus loin. Et donc, nous a proposé de faire travailler sur le pugilat et sur le BK pour l'accompagner pour un combat en barnacle. Donc, ce qui s'est fait, et on a gagné. On a été les premiers Français à arriver à gagner en Angleterre. On en était assez fiers. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Et on n'y est pas allé pour l'argent ou pour autre chose, hein. On y allait vraiment pour l'expérience, le ressenti et la fierté de pouvoir faire ça, c'est-à-dire se retrouver vraiment à l'essence même de la boxe, pouvoir se retrouver là, dans ce ring-là, à l'ancienne, avec pas de protection, avec un certain code d'honneur, un certain retour aux sources, tout simplement.
Toi, tu as vécu ça comment, parce que être derrière les cordes et voir la personne que t'accompagne combattre comme ça, ça va être impressionnant quand même.
Alors, impressionnant, pas forcément, parce que on savait où on allait, on savait où on mettait les pieds un petit peu, et puis on a été quand même chouchouté par les Anglais. En arrivant, c'est qu'on était les Français, les petits nouveaux et tout ça, donc on a été vraiment très bien accompagnés et très bien accueillis, même par le public. On a combattu Andrew O'Connor, et c'est un monsieur très important qui a fait 45 combats en MMA, qui est super connu là-bas et qui est super apprécié parce qu'il défend énormément de causes. Justement, il fait beaucoup, enfin tous ses combats en fait vont pour les enfants malades, il fait, d'accord, beaucoup de sponsoring comme ça, et il organise exprès des combats pour donner de l'argent à des enfants malades. Donc nous, on avait un petit peu cette anxiété de se dire, bon, en fait, on va combattre un mec qui est super connu et puis
oui,
super gentil.
Combats, c'est... Oui.
C'est un mec super apprécié.
Le paramètre gentil, effectivement, dans le contexte.
Ouais, c'est vraiment, et quand il est arrivé, nous, on était un petit peu à la mode à la française où on le voit arriver de loin, on commence à se dire, bon, il vient vers nous, ça va, c'est qu'il va chercher un petit peu les problèmes. Et finalement, il nous a pris dans ses bras, il a dit, ah, machin, ça, c'est super, on va s'éclater, on va s'amuser. Et il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de colère, tout ça. On l'a vu rentrer dans le ring et on a vu une personne différente vraiment de ce qu'il était à l'extérieur. Dans le ring, il était vraiment en colère et vraiment énervé, mais toujours sans aucune colère envers Manu, en fait.
J'ai connu ça, moi, par rapport à certains pratiquants d'arts martiaux qui sont extrêmement adorables quand on est dans les vestiaires ou à la machine à café, mais dès qu'ils sont en face de toi en garde...
On voit la différence.
Voilà, d'un coup, il y a un bouton qui a été, qui a été activé, c'est plus la même.
Et du coup, le combat a fait un round, il a dû arrêter le combat par blessure. Donc, il s'est cassé la main sur le haut du crâne de Manu.
D'accord.
Et du coup, vraiment, même là, à ce moment-là, il était super fier de ce qu'il avait fait. Les trois quarts de la prime de Manu, on l'a donné à Andrew. Parce qu'on n'était pas venu là pour l'argent, donc on lui a filé tout ce qu'on pouvait, on pouvait lui donner. Avec le reste de la prime, en fait, on a payé les bandages pour protéger les phalanges. Mm-hmm. Et c'est tout ce qu'on a récupéré sur l'argent. Ah, donc, après ça, en fait, le mec est parti directement sur le parking, a fait une vidéo en nous remerciant en live sur sa page Facebook, machin, en disant qu'on était super combattants, enfin, c'était super génial et tout ça. Et c'était, en fait, nous, on était un peu perdus. Donc, en fait, on n'a pas vécu le stress. Comment on peut vivre un stress en France avec un combat, avec les vestiaires bleus, les vestiaires rouges, avec...
C'est pas nos codes.
Ouais, c'est pas du tout pareil. Et puis, fin de gala, tout le monde, tous les combattants se sont retrouvés, enfin, ceux qui étaient encore en état de rester. Tout le monde a bu un coup ensemble. C'était vraiment familial, alors que ça a été sanglant. Il y a eu du sang, il y a eu des blessures.
On va en parler de ça, effectivement. Puisque on comprend bien que s'il y a moins de rounds et si dans certaines fédérations on compte jusqu'à 20 pour un KO, c'est que on n'est pas sur les mêmes blessures et sur les mêmes rapports au physique. La boxe anglaise a mis des gants aux combattants pour que les combats durent plus longtemps, pour les préserver. Est-ce que qu'est-ce qu'il en est justement de ces blessures dont tu parlais, des saignements, des fractures, des conséquences physiques sur le combattant dans la pratique du bare knuckle et par opposition à la boxe où on a justement des gants rembourrés et très rembourrés.
Alors la comparaison avec la boxe anglaise, c'est qu'on a mis des gants pour à la base un petit peu essayer d'éviter les blessures, mais au final, les traumas et la longueur des combats font beaucoup plus de dégâts que le bare knuckle. Faut savoir que dans le bare knuckle, la base, c'est que s'il y a une blessure, déjà, le round est arrêté et le docteur, le médecin, vient vérifier si la blessure est grave ou non. Si la blessure n'est pas trop grave, que c'est juste un saignement, on stoppe le saignement et on repart sur un combat. Si la deuxième fois que la plaie est ouverte, le médecin revérifie et si on devait retourner, le combat devait retourner, à son but initial, c'est-à-dire repartir à combattre, le médecin reste en bord de ring et lui décide si on continue ou on continue pas. C'est-à-dire vraiment, on préserve le combattant. En bare knuckle.
Sur YouTube, on voit des gens qui saignent assez vite. Mmh. On a un contact direct de l'os contre l'os. Moi, j'ai vu des gens qui avaient le plancher orbital qui avait été fracturé, des choses comme ça. On voit des choses qui sont impressionnantes visuellement. Donc, quand on dit on préserve le combattant, c'est pas ce qu'on voit.
Bien sûr, c'est parce qu'on voit, parce que le but de cette discipline réellement, c'est d'exprimer sa brutalité. C'est d'exprimer pendant 6 minutes quelque chose de brutal. Mais c'est 6 minutes, c'est-à-dire 3 rounds de 2 minutes. Ça va extrêmement vite. Et il faut savoir que généralement, on ne va jamais au bout, très rarement au bout des 6 minutes, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va être blessé avant. Et par exemple, Andrew ou Connor s'est blessé à la main. Le docteur est venu, il a levé son petit doigt, on le voit sur la vidéo. Il voit que Andrew O'Connor a envie de combattre, mais que son doigt lui fait mal, il stoppe le combat, il a dit non, stop, on arrête, on va pas t'abîmer plus que ce que tu es. Alors que là, en boxe, dans un gant, la main cassée, on le verra pas forcément.
Et si le combattant pris avec l'adrénaline ou l'envie de continuer, il risque de faire des dommages plus importants.
Plus importants.
Alors moi, je pour rebondir sur ce que tu disais, j'avais lu qu'effectivement, les traumas cérébraux sont beaucoup plus graves en boxe.
Ouais.
du fait de la durée des combats, du fait que le gant masque quelque part la violence des coups qui vient agiter la tête à chaque fois qu'il y a un coup de poing qui porte au visage ou au crâne, et qu'on a donc sur la durée des conséquences beaucoup plus graves en boxe anglaise que ce qu'il peut
forcément
être le cas en bare knuckle.
Et il faut savoir aussi qu'on ne fait pas une longue carrière en BK. On le fait pour l'honneur, parce qu'on a besoin d'aller chercher cette brutalité qui est en nous. Mais on va faire quelques combats, et après on va aller faire d'autres disciplines. Le BK, pour moi, et pour beaucoup de gens, je pense aussi à l'étranger, c'est plus un moment dans sa vie. Aller au-delà de ce qu'on a déjà fait.
C'est ce que tu disais pour les combattants de MMA, le besoin de sortir un petit peu de son confort.
Voilà.
Et d'aller voir un peu, de se mesurer à ce test-là, pour ensuite peut-être repartir différent et avec
c'est ça, et puis c'est
une expérience différente et une niaque différente.
Une niaque différente parce qu'on a l'impression, alors que c'est pas forcément vrai, c'est que ça reste brutal, ça reste dangereux, on a l'impression que sans gants, ça devient quelque chose de plus dur, alors que finalement, pas forcément, puisque justement, on ne laisse pas l'opportunité aux personnes d'aller trop loin dans le combat pour se blesser grièvement. 6 minutes, ça va très très vite. Un round, c'est 2 minutes. Ça reste relativement très très rapide, 2 minutes. On peut se faire très très mal, on peut se blesser en 30 secondes. Andrew O'Connor a combattu l'ex-champion du monde de BK. Ça a duré 40 secondes, le combat. Il lui a fait triple fracture du crâne. Voilà, oui. Mais c'est terminé là. Ça fait 40 secondes de combat. La personne s'est fait soigner. Aujourd'hui, elle va très bien. Elle recombat bientôt. Elle a re-signé à Londres pour un autre contrat. Mais ça peut aussi être aussi un moyen d'aller voir cette sauvagerie qu'on peut avoir et qu'on essaye de dissimuler au quotidien. Et je pense que les Anglais aiment bien ça, se retrouver à un moment et lâcher les vannes. Retrouver dans un cercle bien, bien précis, dans un contexte bien précis, lâcher cette sauvagerie, lâcher un petit peu cette violence qu'il y a en tout le monde, en fait, et qu'on ne peut pas exprimer au quotidien. Là, pendant 6 minutes, on peut le faire.
Le fait d'enlever les gants, c'est aussi dans l'esprit, on est plus dans le sport, quelque part.
Totalement.
On enlève un élément un combattant des gants rouges, l'autre des gants bleus. On est quand même sur quelque chose qui a une image très forte sportive. Le fait d'enlever les gants, oui, c'est.
On retrouve ce côté un petit peu populaire de la bagarre qu'on avait à une certaine époque, hein, et puis qu'on a dénaturé petit à petit avec les gants, avec les règles, avec les sponsors, avec l'argent, avec ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus sincère. On le ressent dans l'ambiance du public, on le ressent dans l'ambiance des vestiaires, on le ressent aussi par les organisateurs qui sont eux-mêmes des combattants, qui combattent même le jour de leur gala. Ils organisent un gala, ils font venir 2000 personnes, et à la fin du show, ben, c'est eux qui vont défendre une ceinture ou un titre. Ce qui reste relativement fou, parce que le mec doit gérer les combats, les remises, les entrées, tout ça. Et derrière, en plus, il va faire une prépa physique, et il va faire une prépa combat, et il va combattre dans la journée.
Donc cette prise de risque, accepter cette confrontation, on le fait, bon, ça paraît assez évident ce que je vais dire, mais parfois il faut le répéter, on le fait pour soi. C'est un test contre soi-même.
C'est personnel. Si on part pour faire un combat de bare knuckle, ou même quelques temps en bare knuckle, on le fait pas ni pour l'argent, en tout cas pas à l'heure actuelle dans le monde, ça rapporte très peu d'argent. On le fait vraiment pour son honneur, sa fierté, et se tester, se dire à un moment j'y étais dans ma vie. C'est un petit peu ça, c'est comme un saut en parachute. On va pas le faire tous les jours, à part pour les vrais passionnés, mais un jour dans sa vie, on se dit, mais un jour j'ai eu le courage de le faire, de sauter en parachute. Le bare knuckle, c'est un petit peu ça. Toute ma vie, j'ai été dans le confort de réglementation, de gants, de tout ça, même si ça reste relativement difficile. Un jour, j'ai enlevé tout ça, et puis je me suis battu comme à l'époque, sans gants, avec un homme qui avait vraiment envie de se battre avec moi, sans forcément se dire qu'il a quelque chose à gagner derrière.
Mais c'est, on va dire que c'est une étape supérieure. Moi aujourd'hui, je suis pratiquant en arts martiaux. J'ai pratiqué la boxe de manière extrêmement faible, presque. Je pourrais dire, je n'ai jamais pratiqué de boxe. J'en ai fait très très peu. Si tu me demandes aujourd'hui de mettre des gants de boxe et de monter sur un ring, j'aurais à mon niveau l'impression de faire ce défi-là.
C'est pour ça que je dis, c'est vraiment ça vient au bout d'un moment. Cette idée de retour aux sources, un petit peu, ça vient après quelques années dans la boxe, quelques années dans la MMA ou quelques années dans tous les sports de combat, en fait, hein, généralement, qui restent pugilistiques, c'est-à-dire avec un affrontement au point, sans armes et tout ça. Si on part dans cette idée-là, petit à petit, de dérouler et d'aller chercher un petit peu d'où ça vient, d'où viennent les règles de la boxe, pourquoi on met des gants. Et au final, ben moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe Choisy. C'est un petit peu cette recherche-là de l'efficacité, de la brutalité un petit peu de ce sport-là, et d'aller chercher petit à petit des étapes pour dépasser tout ça, comme le MMA est devenu ben, aujourd'hui hyper populaire. Et à une époque, les gens disaient que c'était tellement brutal, tellement qu'on tapait les gens au sol, ça, c'était inadmissible. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde ben, apprécie plus ou moins cette forme brutale des arts martiaux.
C'est très discuté.
Voilà.
Et j'ai l'impression qu'on parle moins des matchs de boxe que des matchs de MMA en ce moment, oui, que ce soit à la radio ou dans les conversations entre les gens.
Mais on a perdu l'idée de un combattant aguerri dans plusieurs disciplines va affronter un autre combattant aguerri dans plusieurs disciplines. On est plus sur du show télévisé avec des grands scénarios, avec des affrontements bien avant le fin de la polémique, avec plein de petits trucs qui font que finalement quand on arrive au combat, bah c'était c'est plus forcément l'intérêt. C'est tout ce qui s'est passé autour qui
mais
donne de l'intérêt.
Il y a tellement d'attente que quelque part, voilà. Le combat est décevant.
C'est ça. Moi, c'est ce que je vois.
La bande annonce est plus belle que la.
C'est ça. C'est... en fait, les gens aiment tellement cette polémique-là autour, par exemple, de Khabib et McGregor. Ça a pris tellement d'ampleur, qu'arriver au combat, c'était intéressant. Mais on était au bout, c'était la fin de l'histoire. Il n'y avait plus cette pression, il n'y avait plus tout ça. On avait tellement vécu d'épisodes, tellement de choses, tellement de trucs, qu'on voit plus d'images de Khabib qui sortent au-dessus de la cage que du combat en lui-même. On voit juste que Khabib a perdu ses moyens et on ne voit pas tout le travail qu'il a fait à côté, on voit juste les polémiques. Et en BK, il n'y a pas ça, en fait. Parce que le mec, il vient, il serre la main à son adversaire, il repart avec son adversaire et ils ont appris eux-mêmes quelque chose de cette expérience-là, la pression qu'ils ont eue et le courage qu'ils ont eu.
Tu parlais d'entraînement et on parlait de technique. Donc si je suis bien, aujourd'hui on enlève les gants, on se retrouve avec des choses qui selon les fédérations sont permises ou pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un entraînement spécifique à mettre en place pour le BKB, ou est-ce que juste voilà on vient avec son expérience du MMA ou de la boxe et puis on vient se tester, on repart et on change pas grand chose à sa façon de s'entraîner, ou est-ce que toi tu penses que c'est une discipline qui doit maintenant se structurer, où on a des gens qui travaillent sur comment combattre en BKB, font des entraînements spécifiques BKB, notamment je pense à la fédération BKB France, hein, j'imagine que comme vous ne pouvez pas organiser de combats en France, vous êtes plutôt orienté sur préparer des gens pour des combats à l'étranger.
Totalement. Alors nous, le statut de la BKB France, c'est plus pour avoir une existence officielle à l'extérieur de la France, donc dans les pays où on va combattre, pour être reconnu en fait comme une entité et pas juste deux personnes qui viennent, et plus vraiment créer une team autour de ça. Et bien sûr qu'il y a un entraînement spécifique au BK, mais c'est pas plus, on va dire, que le pugilat. En soi, l'école Scola Martis a fait le travail depuis maintenant 20 ans. Philippe Choisy a créé un concept de retour aux sources de la boxe anglaise, donc sans protection, de combat, avec protection avec le coude et des déplacements particuliers, puisque les distances sont complètement différentes, les gardes sont complètement différentes. Et du coup, il y a vraiment un truc spécifique. Alors, tout le monde ne travaille pas de la même manière.
La différence, pour qu'on la situe bien, le fait d'enlever les gants change la distance, puisqu'il y a quand même... Alors, je ne pourrais pas dire comme ça combien de centimètres, mais il y a quelques bons centimètres d'écart entre le poing et le bord de la mousse du gant. Donc effectivement, ça change la distance à laquelle on impacte. Je pense que ça change la garde aussi.
Oui.
Parce que ben on se protège très bien en fermant ses gants devant soi. Une fois qu'ils y sont plus, la protection perd aussi de nombreux centimètres. C'est ça que tu veux dire par
Il y a la façon de mettre ses gants en bouclier, donc avec les poings fermés. Si on fait ça à main nue, on se prend nos propres phalanges dans les arcades et on risque de se blesser nous-mêmes. La superficie de défense des mains n'est pas la même que celle d'un 14 ou d'un 12 au Z, ça dépend dans quelle catégorie on va combattre. Mais du coup, la garde est complètement différente, les distances pour pouvoir justement travailler sont différentes. Il y en a beaucoup qui travaillent au corps à corps, d'autres qui vont travailler un petit peu plus à distance avec des bras tendus. On peut travailler avec aussi une garde main ouverte, ce qui est super intéressant. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais qui, en fait, n'ont pas été inventées juste pour le BKB, qui ont été inventées à l'époque déjà pour le pugilat pendant les Jeux Olympiques.
Moi, j'ai vu une vidéo de Rikan, justement, donc, qui a accompagné pour son combat, où il présentait des techniques pour rencontrer le poing de l'adversaire avec son coude.
Ouais.
Et donc faire mal à l'adversaire et avoir une chance de lui casser les mains avec le coude, c'est les techniques que nous on a en arts martiaux philippins, c'est les techniques que j'ai vues en Silat aussi en Wing Tsun. Mm. Donc effectivement, on est sur des choses qui sont pratiquées mais par des disciplines totalement différentes auxquelles on pense pas.
C'est vraiment il faut bien se dire qu'en fait on n'invente plus rien. Quasiment, hein. On modifie, on peut-être on améliore, des fois pas, mais il suffit justement de revenir à cette base-là d'enseignement ancestral, que ce soit dans tous les sports de combat, tous les arts martiaux. Forcément, il y a une souche, il y a une base, et c'est là où il faut aller chercher. Alors, il y a certaines applications qui vont être différentes dans d'autres, mais la finalité reste quasiment la même, et l'idée, c'est l'efficacité au maximum, à 100%. Et on cherche toujours à peaufiner ces mouvements-là aujourd'hui. Mais justement, le bare knuckle nous apprend justement à revenir à ces gestes de base, qui étaient les gestes pugilistiques, que ça vienne des Philippines ou d'ailleurs, en fait. Hein. Mais on, sans ces gants, sans ce bouclier, sans ce code-là, la boxe change. Et la vision justement générale de la boxe change. On a une approche certes brutale, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Oui. Ne serait-ce que ne pas se briser la main sur le crâne de son adversaire quand on va taper, parce qu'on n'a pas de protection.
D'accord. Et là, le travail, par exemple, main ouverte est assez intéressant. Ouais. C'est quelque chose que j'expérimente dans ma propre pratique. Effectivement, la main ouverte permettra de frapper avec une partie molle sur une partie dure et d'éviter un choc qui vient casser les tout petits os des mains, des choses comme ça.
Tout à fait. Et on le voit bien sur Andrew O'Connor, qui est combattant MMA et qui frappait quasiment de la même manière que quand il frappait en MMA. Sans dire qu'il a vraiment tapé quand même. Et il a du coup, avec les gants, les bandages qu'il avait en MMA, il arrivait à faire des KO très rapides. Sur la tête à main nue, il s'est brisé les doigts. Voilà.
C'est peut-être une légende. Moi, j'avais entendu quelqu'un me dire que ça fragilisait les mains de travailler trop avec les gants. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de contact.
Je ne vois pas te dire exactement.
C'est peut-être une légende.
Vraiment, moi, je n'ai pas les mains fragiles. Après, moi, je travaille avec différents gants et différentes façons. Donc, forcément, je ne peux pas te dire exactement. Après, en fait, ça va être aussi la répétition des mouvements qui, même en main nue, va forcément abîmer les mains. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais, en fait. Travailler avec des gants, c'est très intéressant parce que, justement, on peut appuyer des coups et tout ça. C'est sûr que nous, quand on va faire des préparations, on met des gants.
Laisser le combattant avant son combat, c'est pas intéressant. Après,
travailler avec des mitaines, on va travailler avec des casques, parce qu'on va pas abîmer les gens pour abîmer les gens. Et après, il y a cette phase aussi de combat où on va être plus sur du schéma codé, où on va travailler à main nue avec un contrôle total des mouvements pour pouvoir placer certains enchaînements et certains coups bien plus précisément qu'avec des gants ou avec des mitaines.
Aujourd'hui, un combattant, qu'il ait de l'expérience ou pas, souhaiterait se lancer dans le BKB. Qu'est-ce que il est en France, comment il s'organise, comment il travaille?
Aujourd'hui, sans expérience de combat, ça va être très compliqué de rentrer sur une fédération de BK à l'étranger. Ils acceptent encore aujourd'hui quelques combattants un peu bagarreurs et un peu motivé pour ça, pour tester ça. Mais il faut savoir que le prix à payer pour ça reste relativement élevé au niveau physique. Hein. Il faut savoir qu'on ne gagne pas d'argent de base. Hein. On gagne, je crois que le combat, c'est 250 livres. C'est misérable par rapport au trajet, par rapport à l'hôtel, par rapport à tout ça. Que là-bas, en Angleterre, les frais médicaux ne sont pas pris en charge et qu'en fait, on signe une décharge comme quand on prend en charge totalement le combattant quand on y va. Donc quand on y va, il faut se dire qu'il y a un moment, il faut être prêt. Il ne faut pas y aller au petit bonheur à la chance en se disant « tout va bien se passer et je vais repartir comme si je suis arrivé ». Manu a gagné son combat, il est reparti, il avait quand même deux beaux yeux bleus à la fin du combat. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain en se disant ben je vais demain combattre en BK. C'est un parcours de vie et puis c'est aussi une préparation qui est intéressante. C'est Manu a mis un an, presque plus d'un an même, à préparer son combat. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas combattu, il a déjà combattu en amateur, mais ça faisait 8 ans qu'il n'était pas remonté sur un ring, il a mis un an et demi à venir combattre.
Et cette préparation, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à la BKB France comme assistance ?
Alors, nous, en fait, ça va être vraiment de sélectionner les combattants. On en a quelques-uns aujourd'hui qui sont motivés pour le faire, qu'on sélectionne donc un petit peu partout, à Paris ou à Montpellier, etc., qui prennent contact avec nous avec une certaine motivation et un certain vécu dans la boxe. Et on part sur une idée de formation un petit peu diversifiée, c'est-à-dire qu'ils vont faire une formation chez Philippe Choisy depuis Gila de biomécanique et voir ce qu'ils sont capables de faire. Si Philippe dit bah, là dans 6-7 mois il peut combattre, il va forcément aller voir par exemple Manu avec qui il va travailler justement par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il a vécu. Il va venir avec moi faire une préparation et mettre en place une stratégie pour les futurs combats, pour savoir le potentiel qu'il a, sa rapidité, sa vitesse, enfin sa force et tout ça. Et après, en fait, on prend contact, grâce à Sylvain Poquet, le photographe officiel de Bolton, avec Andrew Bedquell, qui est la personne qu'on connaît, en tout cas celui qui gère le Barfist Boxing, et avec qui il va proposer un combattant, selon le niveau de la personne et selon comment on va présenter la personne. Et à partir de là, on va préparer un combat sur 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et pour un combat, ça prend beaucoup de temps.
On est sur un classique, on analyse les combats précédents de son adversaire.
Tout à fait, si on a l'opportunité, oui. Ce qui est assez avantageux aujourd'hui dans cette période-là, parce que maintenant beaucoup des combattants qui font du barfist restent sur le barfist, donc du coup les combats sont filmés. Du coup, on peut voir comment ils travaillent, comme Andrew Connor. On avait 45 combats à voir, on a vu 45 combats, on savait comment ils bougeaient, et du coup, c'était assez intéressant de pouvoir travailler comme ça. Si on tombe sur un inconnu, un nouveau, parce que c'est généralement ça, quand on fait ses premiers combats, on tombe pas forcément sur des grands champions, on tombe souvent sur des petits nouveaux, c'est assez compliqué, parce qu'ils n'ont pas de combat à leur actif ou très peu et qu'ils n'ont pas été médiatisés. Du coup, ben, on se retrouve avec un décalage où on ne sait pas où on met les pieds.
Et toi, le développement de cette discipline, tu le vois comment ? Puisque là, aujourd'hui, tu me parles de quelques combattants qui arrivent à vous contacter et que vous envisagez de préparer. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer beaucoup plus, mettre en avant ou au contraire, d'attendre comme ça des gens qui ont une grande motivation et qui vont... qui vous semble être legit à être préparé et alors, pas forcément faire de la promotion.
On fera pas de promotion là-dessus. En tout cas, pas dans les années à venir. Nous, c'est ce clan-là, le clan Choisy, donc de Philippe, de l'école Scola Martis. On se retrouve entre nous là-dessus et on a cette passion commune du pugilat, de la boxe ancestrale, du BKB. Et du coup, on va chercher des gens où on va trouver des gens qui sont intéressés par ce concept, qui rejoignent un petit peu le clan. Et du coup, on travaille, on discute, on échange sur des pratiques qui, des fois, nous, on connaît pas et du coup, qui nous apprennent. C'est plus un échange et plus une passion commune qu'un réel enjeu promotionnel ou financier, parce que c'est pas le but, en fait. On fait ça à côté de notre vie. On est passionné par le combat à main nue. On aime ce qu'on fait, on est ouvert à d'autres personnes qui voudraient faire ça, mais il faut aussi savoir que voilà, on n'en fait pas forcément une carrière, il y en a qui en font, hein, c'est très rare, on gagne pas d'argent, ou très peu, et l'impact que ça a sur la vie après est important, et c'est un choix réel, et il faut prendre conscience de ça, que ce combat-là peut vous laisser des séquelles. Donc c'est quelque chose avec quoi il faut pas forcément le prendre à la légère et justement vraiment réfléchir à l'impact que ça va avoir parce que ben, comme Disco Dave quand il s'est fait fracturer la tête
c'était l'adversaire de O'Connor, c'est ça?
De O'Connor, voilà, qui était champion d'Angleterre ou champion du monde, je sais plus, je crois que c'était champion du monde à l'époque. Et il a eu une triple fracture, il a mis du temps à s'en remettre. C'est quelqu'un qui est expérimenté dans le combat, qui a énormément de titres, qui a fait les road cage et tout ça. Mais ça a été quand même un impact très difficile pour lui. Il a pris quand même un an avant de remonter sur un ring. Pourtant, c'est un combattant aguerri qui fait énormément de combats, qui fait sa prépa, qui a un coach. Donc voilà, c'est de la passion.
Alors, moi, de l'extérieur, alors, je ne parle pas des boxeurs amateurs ou d'un certain, enfin, je vais pas dire d'un petit niveau, c'est pas péjoratif, mais j'ai l'impression que c'est très long aussi, un combat de boxe qui est très médiatisé, on voit des gens qui ont des délais qui sont de l'ordre de 1 an ou 6 mois avant de combattre. J'imagine que c'est parce que on a aussi tout ce principe de remise en forme, de préparation, d'analyse des combats de son adversaire et de préparation de stratégie avec son coach, et derrière une récupération après un combat, surtout quand on fait 12 rounds et qu'on compte les points. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences en fait là-dessus. On peut
par exemple certains Anglais combattent tous les 2 mois à peu près, tous les 2 mois, mais parce que ils sont sur place et que ça leur fait leur petit délire de tous les 2 mois, ils viennent, ils se mettent sur la tête avec un copain à eux, ou en tout cas avec un mec qu'ils connaissent qui est dans le coin, et du coup il y en a certains qui font quand même des combats très très régulièrement, mais comme le temps du combat est très court, et que généralement, ben, quand il y a une personne des combattants de 100 kilos qui s'affrontent, la première qui passe, généralement,
oui, c'est la bonne.
C'est la, voilà. ça reste relativement compliqué de s'en remettre sur l'instant. Mais comme le combat est tellement court qu'il y a très peu, ça arrive assez régulièrement, mais il y a très peu de séquelles sur le long terme.
Oui, voilà. La blessure est possible. C'est une éventualité qu'il faut envisager, voilà. Mais c'est pas forcément, effectivement, on peut être KO et sonné et voilà. Ne pas avoir de séquelles importantes.
Il peut y avoir des grosses blessures, des grosses blessures, mais généralement, c'est des petites coupures à l'arcade, et quand c'est coupé à l'arcade, généralement, le combat s'arrête.
D'accord. Oui, c'est ce que tu disais sur l'intervention du médecin qui
va arrêter. Alors, il faut savoir quand même que, voilà, si c'est le nez qui saigne ou un petit peu la lèvre, ça continuera. Mais si l'arcade est touchée, moi je l'ai vu, si l'arcade est touchée, même si le combattant est gagnant, si le médecin voit que ça continue à couler, il stoppe, il le met forfait, parce qu'il ne prend pas de risque pour abîmer la personne. Donc les blessures, elles sont là, elles sont présentes, elles sont réelles, le sport est brutal. Mais au final, il y a quand même une façon de préserver les personnes qui vont faire ça, en leur disant « Attention, vous pouvez continuer, c'est vrai, mais pour nous, on préfère que vous arrêtiez là. » Voilà. D'accord. Pour préserver la personne et pour pas qu'elle ait des séquelles sur le long terme. C'est ça qui est un peu la dualité entre le BK et cette image un petit peu brutale, et finalement l'envers du décor, où on voit quand même que les gens qui organisent ça sont sérieux, sont carrés et font pas n'importe quoi.
C'est... Oui, on n'est plus dans l'arrière-salle des bars. Voilà. On est venu vers quelque chose qui est plus structuré, plus encadré.
Totalement.
Si les gens veulent te joindre, comment ils font?
Alors, ben, moi, j'ai...
Dans le cadre du BKB, hein.
Dans le cadre du BKB, en fait, aujourd'hui, sur le BKB, on ne communique pas du tout.
D'accord.
Donc, il y a rien, on n'a rien sorti.
Tu viens de le faire.
Voilà. on n'a pas de site internet, on a juste créé la fédération, donc administrativement, on existe. Mmh. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait, en tout cas, rien n'a été publié, ou en tout cas, rien n'a été mis en avant, parce que justement, nous, on a cette réflexion-là de se dire comment on va faire les choses. Et là, ça fait, voilà, presque un an et demi qu'on travaille justement à lancer quelque chose, à créer une sorte de cellule où on va pouvoir réunir des gens. Mais pour l'instant, on est sur de la réflexion plus que... On travaille à côté, on rencontre des combattants, on accompagne certains combattants sur BKB France. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de communication dessus parce qu'il n'y a pas de réel enjeu aujourd'hui, à l'heure actuelle, surtout avec le Covid, de partir à l'étranger et tout ça.
Effectivement, ça bloque pas mal de choses. Donc, c'est une question de rencontre.
Voilà.
Vous rencontrez des gens qui, ouais.
Après,
qui
on a,
vous communiquer.
On a la page TMD, on a beaucoup de choses. Donc, on a la Fédération TMD France qui est sur un autre registre de plus complète. Donc, il y a un site internet TMD, il y a la page de ma salle de sport, il y a la page de Scola Martis. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on peut nous contacter, et les gens nous contactent généralement par ça. Il y a la chaîne de Rican, la chaîne YouTube de Rican, ma chaîne YouTube. Il y a les cellules qu'on a créées, comme la tribu de Rican avec Manu, où il y a beaucoup de boxeurs qui vont à l'intérieur et qui posent des questions là-dessus. Il y a la page de Scola Martis de Philippe Choisy. Donc il y a pas mal de choses où on peut nous contacter, mais aujourd'hui, officiellement, sur le BKB France, on n'a pas encore publié quelque chose.
D'accord.
Voilà.
Bon, on mettra les liens que tu me demanderas de mettre. Si tu veux être contacté, il n'y a pas de souci. On les mettra en lien de la description de l'émission. Bon, ben Luc, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était un moment agréable.
Ouais, c'était cool.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour cet épisode. Vous pouvez trouver sur Internet les vidéos des combats évoqués par Luc. De mon côté, comme promis, je vous mets les liens complémentaires sur le site agane.one si vous voulez en savoir plus sur le BKB. Entraînez-vous bien.